Bonjour Fabrice, tu es chorégraphe de la compagnie Retour à Mont basée à Charenton, Le Pont en région parisienne. Tu es au téléphone avec nous aujourd'hui car dans le cadre de notre festival radiophonique Écoute ta ville, vous organisez un atelier tyrolienne avec vue ce mercredi 28 dans le quartier des Blossières. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Alors, avant de parler un peu de cet atelier, on va peut-être revenir sur la compagnie en elle-même. Est-ce que tu peux me dire, au final, un petit peu, qu'est-ce que la compagnie Retour à Mont ?
Alors, la compagnie Retour à Mont, c'est une compagnie qui, pour faire rapide, s'empare de la ville comme si c'était un agrès géant. C'est-à-dire qu'on a des outils qui peuvent être la corde, l'élastique, le baudrier, les mousquetons... Et tout ça ne nous sert pas à grimper, mais plutôt à nous suspendre le long des parois, à tirer des tyroliennes entre les bâtiments et à utiliser la ville, comme je le disais, comme si c'était un espèce d'agrès absolument immense. Et ça vient questionner cet espace de vie parce qu'on en trouve un usage nouveau.
D'accord. D'ailleurs, tu fais de l'escalade à haut niveau aussi?
Alors ça, c'était il y a quelques temps.
Voilà.
Donc mon premier métier, oui, ça a été grimpeur. Alors j'étais effectivement grimpeur de haut niveau et je faisais de l'ouverture de voie pour les compétitions internationales.
D'accord.
Toutes premières coupes du monde en fait où je me suis pas mal baladé pour aller ouvrir des voies sur des murs artificiels. Et c'est un réglage de difficulté qui est très très précis parce qu'il faut, dans l'idéal, que la personne qui gagne arrive au sommet. Donc il faut bien bien connaître les grimpeurs les plus forts du moment et puis être capable de régler la difficulté au plus serré, quoi.
Et c'était une passion ça alors ?
Ah bah oui, j'ai commencé l'escalade avant même de naître. Hein, donc je grimpais déjà, enfin, mes parents étaient grimpeurs, montagnards et puis... Ils n'ont pas arrêté d'aller à Fontainebleau. Donc, je suis plutôt ce qu'on appelle un grimpeur de bloc.
D'accord.
C'est un peu une montagne. Donc, le bloc, c'est vraiment un petit rocher qui parfois fait à peine 3-4 mètres, mais qui peut avoir une difficulté incroyable qui fait que peut-être une personne au monde est capable de passer ce petit rocher dans lequel il y a deux mouvements. Donc, ça, c'est une école du geste qui est incroyable parce que. C'est un vrai corps à corps, il n'y a pas l'intermédiaire de la corde, d'autres matériels que le corps du grimpeur, ses chaussons d'escalade et le rocher.
Et justement, d'où vient cette idée de mêler cette passion de l'escalade avec la chorégraphie ?
Bon, ça vient assez vite parce qu'en fait, comme je le disais, sur un bloc qui fait deux mouvements, ces deux mouvements, il est vraiment question de les optimiser, comme je disais alors, de trouver la méthode la plus économique, la plus harmonieuse aussi, c'est souvent le cas d'ailleurs. C'est souvent, ça converge, hein, c'est-à-dire que la méthode la plus économique sera souvent la plus belle, parce que voilà, ça va générer une amplitude de déplacement latéral, il y a un délié musculaire, on peut pas être dans la crispation quand on est à sa limite de niveau, on est obligé d'être... d'être dans une escalade, oui, c'est ça qui est délié, qui est fluide, et on est déjà proche d'une écriture gestuelle. Et puis après, quand j'ai ouvert des voies pour les compétitions, j'étais dans de l'écriture de mouvement à la verticale sur ces murs. Donc là, on est aussi assez proche de l'écriture gestuelle dans la danse. Et assez vite, après, j'ai rencontré des chorégraphes de danse contemporaine qui s'intéressaient à la verticale. Et qui m'ont embauché comme danseur dans un spectacle de danse contemporaine, mais qui utilisait la verticale. Donc voilà, ça s'est enclenché.
D'accord, donc avant ou pendant ton premier métier d'escalade de haut niveau, tu avais déjà un bagage en danse ou on va dire en expression du corps ?
Non, absolument pas. Non, ça c'est vrai que c'était l'énorme défi, on va dire. Parce que quand on grimpe, on est tranquille dans sa falaise ou dans sa forêt de... avec le rapport au rocher. Et là, tout d'un coup, il y a un rapport aussi, quelque chose qui se donne à voir. Donc, c'est extrêmement différent. Mais en même temps, on était déjà avec le groupe de grimpeurs avec lequel on pratiquait, à s'observer les uns les autres aussi, à échanger sur nos méthodes de mouvement, à pouvoir être capable d'apprécier qu'on peut dire aussi la beauté d'un mouvement chez un copain. Mmh. Donc il y avait quand même déjà aussi ce rapport aussi à une forme. Moi j'aurais envie de dire que l'escalade ça peut être une forme d'art hein, si c'est pratiqué justement dans une grande justesse de mouvement, économie d'énergie, on s'approche vraiment d'un mouvement artistique.
Donc l'escalade, tu vois ça comme un art. Comment, par exemple, tu retranscris ou tu écris des mouvements dans le cadre d'une création en prenant comme point, on va dire, d'ancrage l'escalade?
Alors en fait, je me suis un petit peu éloigné de l'escalade dans le sens où mon travail dans l'espace public, donc je travaille soit sur des murs, mais plutôt dans un rapport à la suspension. Donc en fait, on n'est pas tellement à utiliser des prises, même si le bâtiment peut nous proposer des rambardes, des angles, des bords de fenêtres. Mais en fait, si je veux avoir une pièce qui puisse être tournée dans différents lieux, je peux pas même m'attarder énormément sur les spécificités de chaque bâtiment. Mmh. Je suis obligé d'avoir une écriture qui va pouvoir se transposer d'un lieu à l'autre.
D'accord.
Donc en fait, on est plutôt sur ce travail sur un mur lisse, ou alors de ramener et de venir greffer sur l'architecture des agrès. Un agrès qui peut être, ça peut être par exemple, on a 4 tubes de 6 mètres qui sortent par une fenêtre. Et à l'intérieur de l'espace qui est délimité par ces 4 tubes, on a toute une chorégraphie très très précise et qu'on va pouvoir reproduire d'un lieu à l'autre, hein, d'une architecture à l'autre. Ou alors une pyramide de cordes qu'on vient suspendre entre deux bâtiments sur un câble. Et cette pyramide de cordes, on peut la jouer partout. À partir du moment où on a 2 points d'accroche qui peuvent être des arbres, des bâtiments, voire une grue.
Et ça se fait haut dans le ciel, ça, généralement, ou ça peut être, on va dire, une structure qui est beaucoup plus basse, qui est beaucoup plus proche du sol?
En fait, la limite d'altitude, c'est pas lié à la peur, c'est plutôt lié à la, comment dire, à la lecture du spectateur. C'est-à-dire qu'au-delà de 15-20 mètres, le corps devient très petit, ou alors c'est une écriture qui travaille plutôt sur la trajectoire des danseurs et pas trop sur un corps qui, enfin, c'est-à-dire qu'on le corps devient tout petit, enfin, donc on rentre pas vraiment dans les détails de la danse, donc en règle générale on joue entre 5 mètres du sol et 15 mètres environ. C'est aussi un confort du spectateur, qui n'a pas besoin de se casser le cou pour nous regarder.
Puis 15 mètres, c'est déjà, on va dire, plutôt pas mal en termes de hauteur. Justement, pour une représentation, donc je pense qu'il y a aussi la limite, on va dire, du matériel, des prises. Comment vous choisissez les lieux? Est-ce qu'il y a des lieux qui sont plus ciblés que d'autres, ou des lieux où vous voulez, par exemple, faire une représentation, mais vous ne pouvez pas car il n'y a pas, on va dire, les bâtiments ou des points de prise qui sont spécifiques, qui ne sont pas là?
Disons que par rapport à ce que j'appelle des pièces de danse verticale déjà écrites, on a un espèce de cahier des charges, c'est-à-dire que pour telle pièce, on a besoin d'une façade qui fait minimum 12 mètres. Il faut forcément, pour chaque représentation, qu'il y ait aussi un espace pour le public qui soit confortable et qui corresponde aussi au nombre de spectateurs attendus. Donc chaque spectacle, par rapport à son implantation, a sa fiche technique. Et il faut qu'on trouve le bon contexte pour pouvoir le mettre en place. Donc après, on va dire qu'il y a des architectures ou des sites qui nous parlent plus que d'autres. Mais en même temps, moi, j'adore travailler autant sur des bâtiments historiques. On a eu la chance de travailler sur plein de bâtiments historiques superbes. Mais j'aime aussi travailler sur des ouvrages d'art, sous des ponts d'autoroute, dans des usines. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas de distinction, chaque espace vertical est habitable.
Et justement, j'avais une question par rapport à ça que j'ai pas posé tout à l'heure. Pourquoi, on va dire, cette fascination entre guillemets pour l'art urbain?
Ça m'intéresse beaucoup par le questionnement que ça vient poser dans notre espace de vie, hein, parce que on parle d'espace public, moi j'aime bien parler d'espace commun, et c'est pas toujours facile pour tout un chacun de vivre en ville, hein, parce que c'est la plupart du temps ce qui se passe. Et disons qu'on a on a une relation à notre espace de vie qui est très liée à la fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on va à la poste, on va à la banque, on va au boulot. Et là, tout d'un coup, l'art dans l'espace public permet une sorte de, presque on pourrait dire, de clairière poétique qui ouvre l'espace et qui transforme la perception qu'on peut avoir de notre espace de vie. Et ça peut permettre de le voir autrement. Alors on peut partager cette pratique aussi, hein, donc à la fois pour un spectateur, on peut lui donner à voir cette danse, mais on peut aussi l'inviter à inviter du public, des habitants, à rentrer dans notre dispositif et à partager notre discipline. Donc là, du coup, il peut percevoir aussi complètement différemment sa ville, qui devient un territoire de jeu infini.
Et justement, en parlant de territoire, de jeu et d'une autre vue, voilà, sur ce qu'on a l'habitude de côtoyer, eh bien, mercredi 28, vous organisez, vous mettez en place une tyrolienne, au quartier des Blossières. C'est plus une action culturelle, parce que vous organisez aussi des actions culturelles. C'est quoi cette autre facette, on va dire, de la compagnie?
Alors, en fait, on cherche aussi à mettre en œuvre des dispositifs qui sont faciles d'accès et qui permettent à tout un chacun de venir presque en passant et de s'inviter. Enfin, on invite les gens à habiter le vide pendant quelques minutes. Donc, c'est une sensation qui transforme complètement le rapport qu'on a à la gravité. On est assis dans un baudrier, on décolle du sol. Et de là-haut, on a aussi une vue différente sur notre espace de vie. Donc, on propose un nouveau point de vue, en fait. Une autre relation à la gravité et un nouveau point de vue.
Cet atelier, ça rentre toujours dans, on va dire, dans une sorte d'art où ça demande au public, justement, qui est exposé à cet atelier, de se poser des questions, justement, sur le lieu dans lequel il vit.
Oui, alors en fait, c'est vrai qu'on le prend vraiment ce nouveau point de vue, c'est un point de départ pour quelque chose qui est tout simple, mais en même temps qui a son importance pour nous. C'est une écriture textuelle ou un dessin. Donc en fait, on propose une situation il n'y a aucune narration claire liée à cette situation, mais par contre, chaque personne qui descend, et c'est ça qui est important, va avoir sa lecture, a eu ses sensations, ses perceptions, a perçu une chose particulière. Et en fait, donc cette espèce de petit bain de vide qu'on propose, c'est vraiment le point de départ pour chacun d'une écriture. Donc on rejoint en quelque sorte un peu ce qui nous habite quand on se met en création, c'est-à-dire que on a un nouveau dispositif. Et à partir de ce nouveau dispositif, qui peut être un nouvel agrès, où est-ce que ça nous emmène, vers quelle narration ça peut nous emmener, quelles sensations, et ça peut être le point de départ d'une chorégraphie.
Donc ça, c'est pour une population ciblée, on va dire, par exemple, là on parle du quartier des Blossières, ça sera forcément, on va dire, plus attrayant pour les gens du quartier, ou alors c'est vraiment ouvert à tout le monde?
Alors c'est ouvert à tout le monde. Je pense que c'est intéressant pour quelqu'un qui découvre un espace, en tant que piéton, puis tout d'un coup, pof, on lui propose de se décaler spatialement. Mais c'est peut-être encore plus important, peut-être, ou c'est peut-être plus encore un événement pour quelqu'un qui connaît, qui côtoie ce lieu, ce territoire, et on lui en propose tout d'un coup un nouvel usage. Et pour l'avoir vécu, forcément, même quand la tyrolienne ne sera plus là, la personne qui a pratiqué ce petit atelier pourra plus passer dans cet espace, dans ce lieu, sans avoir en mémoire ce qu'il a pu vivre.
Eh ben, merci Fabrice. Donc ça, c'est à voir ce mercredi 28 dans toute l'après-midi, tout proche de l'école Jean Mermoz, dans le quartier des Blossières. Il y a peut-être pour la compagnie des futures représentations proches qui arrivent bientôt.
Alors, on sera dans Paris, enfin voilà, on sera dans Paris le 3 avril. On sera, non, c'est un petit peu loin, à la Martinique, aussi en avril, en Hongrie. Mais ça reste encore un petit peu loin de,
oui.
de la Tyrolienne, à moins de vraiment prendre son élan. Et juste un détail aussi, c'est vrai qu'on sur cette Tyrolienne, on est aussi sur un hissage collectif. Donc ça fait vraiment partie du dispositif. C'est quelque chose qui est assez chouette à avoir aussi, que chaque participant participe à un groupe de hisseurs qui permet à chaque individu de décoller du sol. Et pour lui offrir ce nouveau point de vue.
Voilà, donc il y a une réelle cohésion en fait dans tout le dispositif.
Exactement, ouais.
Et bah super, et bien ça c'est à voir, je l'ai dit, Quartier des Blossières pour le festival Écoute ta ville de Radio Campus Orléans. Encore merci Fabrice d'avoir accordé de ton temps pour Radio Campus.
Et bien merci, et puis bonne tyrolienne.
Pour et bien bah, merci, il n'y a pas de souci. Et bonne continuation pour la compagnie et pour toi.
Merci, à toi.
Salut.
Aussi. Au revoir.